C'est un état dépressif tellement grand que je sais que je pense à mourir tout le temps. Et j'ai pas la force et le courage de le faire, mais je prie le ciel. Je me rappelle que je suis pas croyante, mais j'essaie de croire en Dieu pour lui demander de pas me laisser me réveiller. Et après, quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, mais si Dieu m'écoute, mon fils se réveille et je suis morte. Donc, il y a un problème. Faut faire quelque chose.
Ouais. Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Rose.
Bonjour. Excuse-moi, attends, on va refaire parce que... Sarah, vas-y.
Ça, je vais le garder. Bonjour Rose.
Bonjour Sarah.
Tu es une artiste. Et j'aimerais bien que tu me racontes les débuts de ta carrière et surtout comment on se dit tiens, je vais pas être coiffeuse ou prof des écoles, moi je serai artiste quand je serai grande.
Je pense que je me suis pas autorisée à me dire que j'allais être artiste quand j'étais jeune. Une fois, je me souviens qu'on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard et j'ai 8 ans et je réponds je veux être une star. Donc ça, c'est sûr que dans ma tête, il y a ça, il y a ce truc-là, de vouloir qu'on me regarde, très jeune. Donc je me vois avec des lunettes un peu papillon, habillée en années 80, à faire des spectacles tout le temps, comme les petites filles hein, en même temps. Mais j'ai pas l'idée que ce soit totalement faisable. Très tôt, je me dis tiens, je vais être avocate, tiens, je vais être maîtresse ou j'ai pas une passion qui fait que bon. Les années passant, je me découvre à 10 ans une institutrice dont je parle dans mon livre Kérosène, qui est pour moi plus importante même que des phrases que mes parents ont pu me dire clairement. Enfin, je veux dire, je me souviens pas d'ailleurs de phrases de ma mère qui m'est portée quelque part. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Alors que cette institutrice a eu plusieurs gestes, mots, regards envers moi qui m'ont donné envie d'être quelqu'un. Et donc elle m'a dit toi l'écriture c'est ton truc. Donc déjà parce qu'on écrit, c'est une institutrice incroyable. On écrivait des poèmes, on lisait beaucoup de livres, on lisait Homère. Donc tu vois, c'était complètement fou.
Ambitieux.
Hein. Ouais, très ambitieux et on aimait ça. Et on était en CM, on apprenait des chansons dans toutes les langues. Moi, je peux chanter encore une chanson en japonais qu'elle nous a apprise et je peux pas te dire quel article du code pénal alors que j'ai été jusqu'en maîtrise de droit, tu vois. Alors que je peux te faire Kiboni afule ikiru yokorogishi awazoni miti. Voilà. Donc ça, c'est la chanson en japonais. Et à partir de là, je me dis, je peux être quelqu'un de spécial. Je suis spécial. Et c'est cet instinct qui m'a donné envie d'être spécial. Et pour être spécial, il faut se démarquer. Donc je sais que à partir de là, il y avait ce truc-là. J'ai très vite écrit dans des cahiers, des journaux intimes. J'écris tout ce qui me passe par la tête. Et très vite, j'écris beaucoup de poèmes d'amour. Je suis une romantique un peu désespérée. Je suis amoureuse des copains de mon frère qui veulent pas de moi. Voilà. Et à partir de là, je me sens un peu l'âme poète. Voilà ce que je pense.
Et alors, tu te dis, bon, je serai écrivain, alors?
Non, à partir d'un moment, je joue de la guitare. Mon père m'apprend la guitare, comme il a appris à mon frère et à ma sœur. Et je me mets à faire des chansons, d'abord connues, et puis après à créer des chansons petit à petit. Et je me dis, tiens, j'aimerais écrire pour les autres. Donc, je suis très fan de Jean-Jacques Goldman. Et j'ai vu tout un documentaire sur Jean-Jacques et Céline Dion, où il fait son album 2. Et là, je me dis, c'est ça que je veux faire. Je veux être avec des stars, écrire avec eux, être dans studio avec eux. Enfin, je vois ce truc-là, je veux être Jean-Jacques Goldman, mais pas pour être...
Le chanteur, ouais. mais l'auteur dans l'ombre.
Exactement. Et puis les années passent, et j'écris beaucoup, beaucoup de chansons, mais pas d'ambition, pas de travail, je suis pas sérieuse, je suis pas une travailleuse, je suis pas une acharnée, j'ai pas confiance en moi, donc voilà, je suis pas hyper épanouie, j'ai l'air épanouie parce que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de petits copains, mais je suis pas bien dans ma peau quand même à partir de l'adolescence et il faudra attendre un petit moment avant que ça aille mieux.
À quel moment, c'est pas un jeu de mots, à quel moment ta musique passe le mur du son?
Waouh, t'es beau. Bah déjà, en colo et partout ailleurs, je suis un peu la reine du bal, parce que je fais toujours chanter tout le monde. Je pars vivre en Israël après le bac, je deviens un peu la mascotte. Donc déjà, on me fait chanter partout. Mais donc, je suis en fac de droit à Nice. Je reviens d'Israël au bout de 2 ans parce que je me sens pas bien là-bas. Je suis en fac de droit. Et là, je me rends compte que je serai pas heureuse dans le droit. Et je sens qu'il faut quitter Nice parce que c'est à Paris qu'il va se passer quelque chose. Mais je n'ai pas du tout d'ambition. Mais je sais, au fond de moi, que si je reste à Nice, il va rien se passer. Après une maîtrise de droit à la Sorbonne un peu tumultueuse parce qu'il y a eu un peu de tricherie, j'ai un peu raconté ça dans la parenthèse inattendue. Après une année de remplacement d'une copine à moi dans une école privée où je suis instite de CM2, on ne sait pas comment. Eh bien, j'écris, je suis avec un homme, je me fais quitter. Cette histoire est assez connue et j'écris la liste. C'est comme ça que ça démarre et j'enregistre sur un CD quelques chansons et ma meilleure amie me dit, je vais travailler dans la musique et je vais faire écouter ça. On est toutes les deux sûres et certaines qu'un jour on va y arriver, mais on ne sait pas quand. Et en fait, ça arrive plus vite que prévu. Elle travaille très vite dans une maison d'édition. Donc, l'édition musicale, je savais même pas ce que c'était. Même aujourd'hui, j'ai toujours du mal à comprendre. Mais bon, c'est des gens qui t'aident à travailler tes musiques. C'est en amont de la production.
Ouais.
Et elle fait écouter ça à sa boss qui, elle, me signe. Voilà, je fais un business accéléré, mais je me fais signer en édition avec de l'argent en avance. On trouve un producteur très vite. On trouve un tourneur pour faire une tournée. Et j'ai 26 ans, 27 ans. Et tout se met en place en quelques mois.
Alors que tu exploses.
Et après, on va dire que le disque sort le 25 septembre 2007.
Ouais.
Et quelques mois après, en janvier, ça explose. Ça explose après 2 télés, Taratata et La Nuit de la Chanson Française avec Daniela Lombroso. Il se passe quelque chose, on comprend pas. Au début, on vend quelques disques. Déjà, moi, je suis tellement heureuse parce que j'ai eu de l'argent. Parce que je viens d'une famille modeste, j'avais pas les moyens de m'acheter des fringues, des choses. Je vivais dans un tout petit truc, 17 mètres carrés. Je commençais à me dire, au début, j'encaisse même pas le chèque. Genre, je crois que c'est, je sais plus, 20 000 euros et je me dis, je l'encadre. Et à partir de là, je me retrouve à me faire reconnaître au supermarché d'en bas de chez moi, mais habiter toujours 17 mètres carrés. On a prévu une tournée au début petite parce que on savait pas si ça allait marcher. Donc, on a booké des dates dans des petites salles de concert, mais tout est hyper plein tout de suite. Donc, on book tout de suite des Olympiades, des Cigales. Et donc, ça part d'une
façon. Ça part en flèche, il faut le dire.
Ça part en flèche. Et année 2007-2008, je tourne. Je fais 150 concerts et au début j'avais commencé en faisant les premières parties moi d'Olivia Ruiz, d'Alain Souchon,
ouais.
et d'Axel Red par exemple.
Et très vite c'est les gens qui viennent faire ta seconde partie parce que ouais, c'est toi la star.
C'est des gens qui viennent faire mes premières parties.
Tes premières parties, oui, pardon.
Exactement, et j'ai eu quelques premières parties qui finalement ont explosé après. Il y avait Laurent Lamarca qui est devenu un peu l'auteur-compositeur des Frérots de la Vega, enfin de plein de choses qui cartonnent. Et puis, je vais pas les trouver là. Parce que les gens ont rigolé, je disais, mais c'est pas possible que c'était ma première partie aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas...
Et donc, t'es heureuse à ce moment-là?
Ah oui, à ce moment-là, je suis extrêmement heureuse parce que je ne peux même pas réfléchir, je touche plus seule.
Ouais.
J'ai pas le temps de réfléchir. À chaque fois que mon téléphone sonne, on me dit tu es invité chez Drucker ou tu vas on programme une deuxième cigale et moi je viens du milieu de la musique à Nice, des bars.
Ouais.
J'ai appris la musique comme ça et je suis en couple avec quelqu'un qui vient de là et qui lui peine à trouver un producteur et à vivre de sa musique alors qu'il est musicien et qu'il a toujours fait ça. Et moi, c'est un petit miracle qui me tombe du ciel. Donc, il y a aussi une illégitimité très vite qui fait que pour me la jouer, genre moi, je suis pas sérieuse parce que j'ai peur qu'on me croie prétentieuse et parce que ça me tombe du ciel, en fait.
Donc tu te minimises pour pas le...
Oui. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que je bois très vite, beaucoup.
D'accord.
Parce que je me dis, il faut que j'ai l'air rock'n'roll, faut pas que je me la pète, faut pas que j'ai l'air sérieuse, faut pas que je prenne au sérieux tout ce qui m'arrive. Et il faut savoir que moi, mon idole, c'est Janis Joplin. Et quand il a fallu choisir mon nom de scène, je m'appelle Keren et j'avais une artiste que j'adorais qui s'appelle Keren Ann, donc je pouvais pas choisir mon prénom. J'ai cherché quelque chose autour de Janis Joplin et le film The Rose avec Bette Midler qui était un, pas exactement un biopic, mais en tout cas très inspiré de la vie de mon idole. Et donc je prends Rose.
T'as dit un truc crucial, t'as dit que très vite tu te mets à boire beaucoup. Est-ce que tu bois de façon hors norme ou est-ce que tu bois comme tous les artistes avec les copains, les musiciens, les équipes pour faire baisser la pression après un concert, on va dans un bar avant de parce qu'on n'a pas envie de se quitter de poursuivre la nuit ensemble. Ça commence normalement entre guillemets ou tout de suite tu bois plus que les autres?
Tout de suite. Et je crois que j'avais commencé bien avant, puisque comme je te l'ai dit, j'ai commencé à boire dans les bars à Nice, et j'ai tout de suite aimé l'ivresse, et j'ai jamais bu autrement que pour être ivre. J'ai jamais bu, jamais apprécié, on buvait des shots, donc on faisait des têtes incroyables, on boit des shots de vodka, on dirait qu'on est en train de mourir, mais on aime ça. Donc c'était même des shots de tequila au mètre, donc on mettait du sel sur la main, on prenait le sel, on buvait le shot de tequila, et après du citron. Et ça, on en buvait au mètre, donc il y en a 10 dans un mètre. Autant te dire que...
Mais tu savourais pas la saveur de l'alcool.
Ah, mais j'ai jamais savouré. Puis le vin est arrivé très tard. Je ne buvais jamais de vin, jamais. Le vin, c'est quelque chose pour les adultes. C'est trop lent. Et puis, j'aimais pas. C'est comme le café. On met longtemps à aimer le café. Moi, j'ai bu mes premiers cafés à 20 ans. Au début, quand on est enfant, on dit, mais comment vous pouvez boire ça? C'est comme la première cigarette. En fait, tout est dégueulasse avant de devenir ta vie, quoi.
Donc, c'est devenu ta vie?
Ah, c'est devenu ma vie, c'est-à-dire que c'était mon étiquette, c'était mon image, et je passais mon temps à la façonner. Il fallait que tout le monde sache. Quand on me voyait, j'avais peur qu'on pense que j'étais la petite fille sage avec la petite chemise à carreaux, la guitare, l'ancienne institutrice, tout le monde savait ça. Donc moi, je voulais salir l'image. Et je voulais qu'on sache que j'étais rock'n'roll. Donc même sur scène, je faisais des reprises de Janis Joplin ou de Bob Dylan. Enfin, j'étais inspirée par tout ça et je voulais qu'on le sache. Et je voulais aussi qu'on voit que je boive. Je voulais qu'on me voie boire. C'est pas en secret, quoi. Donc, ouais. Sur scène, je disais à la vôtre, je faisais mon truc un peu, j'avais cru que j'étais Janis Joplin, alors qu'aucun rapport. J'étais une petite chanteuse française qui commençait sa carrière et j'avais ni la voix ni le talent pour faire ça. Moi, j'aurais dû me cantonner à chanter mes chansons et à vivre mes chansons. Mais bon, j'ai voulu montrer une facette de moi qui n'était pas moi. Et à partir de là.
Comment réagissent les gens autour de toi?
On me trouve rock'n'roll. Ouais. Alors, il y a beaucoup de soirées où on me dit, t'as été horrible, t'as été infernale. On m'abandonne en soirée, mais moi, je trouve d'autres gens pour continuer la fête. Donc, ça commence comme ça. Et faut savoir que je suis assez ivre très vite. Je tiens pas l'alcool. Donc, de toute façon, je pouvais pas boire des tonnes non plus. Mais très vite, je découvre autre chose. Et ça va tout changer parce qu'à partir du moment où je découvre la cocaïne, je vais pouvoir boire beaucoup plus et tenir beaucoup plus longtemps et jamais être bourré, coma éthylique et jamais vomir.
Donc en fait, la cocaïne, tu la prends pas pour la sensation de la cocaïne, tu la prends pour pouvoir prolonger la soirée quoi et continuer à boire.
C'est les deux quand même parce que très vite, au début, pareil, on n'aime pas. C'est le goût est amer. On se dit mais ça, on voit pas tout de suite. On se dit mais ça sert à rien. C'est pas du tout de la défonce. Les gens pensent qu'on prend un trait, qu'on est fracassé. Pas du tout.
Faut que tu racontes parce que pardon et j'espère que ça sera pas l'air d'être prosélyte, mais j'imagine que l'immense majorité des gens qui vont écouter, moi compris, savent pas quelle sensation ça fait. Ça, concrètement, déjà. Pardon, mais la première fois qu'on t'en propose, tu montes pas, tu sautes pas au plafond, on saura pas, non?
Oui. Ouais. Ah oui, moi j'ai refusé plein de fois, et surtout je faisais la guerre à des potes à moi qui prenaient de la. On a découvert qu'avec ma meilleure amie qui prenait de la coke aux toilettes, on a compris ça. Pour nous, c'était gravissime. Mais sauf que c'était un mec avec qui j'étais plus ou moins et j'étais amoureuse, et donc lui il en prenait, mais moi je lui faisais la guerre. Et c'est quand même avec lui la première fois que j'ai essayé bien plus tard. Parce que j'ai dit, j'ai envie d'essayer. Ça y est, je me sens prête. Et ce soir-là, j'ai trouvé ça nul. J'ai dit, ça sert à rien, je vois pas. Enfin, ça me fait rien, donc j'arrêtais pas d'en prendre, sauf que d'un
coup... J'ai une question, bah, t'as dit que c'était amer, mais dans l'imaginaire collectif, c'est un truc qui s'aspire par le nez.
Oui, mais ça passe par la gorge, oui, en fait, tu vois. Donc, t'as au fond de la gorge quelque chose de très amer. Donc, le goût est pas bon. Et puis, surtout, on se rend pas compte de ce que ça fait tout de suite. C'est pas immédiat, c'est waouh. Et comme on boit en même temps, alors je sais pas ce que ça fait quand on boit pas, mais je veux dire, ça compense, l'un et l'autre se compensent quand même, donc t'es moins bourré et t'es moins excité parce que t'as l'alcool. Donc c'est la combinaison des deux qui fait que justement tu deviens addict à cette molécule-là qui s'appelle cocaéthylène, c'est un mélange des deux.
Mélange des deux, d'accord.
Ouais. Et ce soir-là, en pensant que ça ne me fait rien, soudainement je regarde l'heure, il est 10h du matin.
Et t'as pas été fatiguée,
Non. Et c'est la première nuit blanche, surtout je dormirai pas. Ça, c'est le premier effet de la cocaïne, c'est de pas dormir. Alors, il y a des moments où je trouve ça fabuleux, quand je suis jeune et que je fais des soirées, et que je suis jusqu'au bout de la nuit, et qu'on se marre, et qu'on discute, et qu'on fait de la musique. Il y a dû avoir ça un petit peu au début, il y a ça. Mais c'est la suite, c'est pas ça.
T'arrives à continuer à travailler, à avoir des rendez-vous pro, à faire des essayages pour des événements, à créer. Est-ce que ta vie arrive à se poursuivre en parallèle de cette consommation?
Bah, par la force des choses, oui, parce que j'ai la chance d'avoir un métier aussi artistique et libre. Je suis un peu je peux décaler une interview, enfin je peux faire les choses, je suis un peu je suis un peu ma propre chef, mais en même temps je fais pas bien mon travail. Je pense qu'il y a des moments où je suis pas là, où j'annule, il y a des moments sur scène où je pense que je suis en dessous de mes capacités, et puis ça commence à se voir que je bois. Ça commence à se voir que je suis ivre sur scène parce que j'ai pas tout le temps de la cocaïne. Donc au début, j'en prends de temps en temps, on en achète à plusieurs, on essaye de faire la fête, quoi. Mais petit à petit, j'en ai besoin. Au début, c'est fun, maintenant j'en ai besoin, et je n'imagine pas, à un moment donné, à partir de 2008, à partir de 2009, je n'imagine pas faire une soirée, aller quelque part, ou même partir deux dates en tournée sans avoir de la cocaïne.
T'as jamais eu de problème avec la police?
Non, jamais. Jamais de problème avec la police. On s'est fait virer, je me suis fait virer de bar, j'ai eu des hontes quand même. Puis je suis arrivée à des événements professionnels sans avoir dormi. Ben, c'est ça le pire, c'est qu'en fait quand on fait des soirées comme ça, on ne dort pas. Et si le lendemain on a quelque chose, et ben on arrive de nuit blanche. Donc par exemple, j'arrive sur le tournage de mon clip Pour être deux avec des acteurs. Il y a quand même Louise Mono et Fouad Amara. Et donc ils sont là. Il y a un réalisateur. Enfin, il y a du monde, quoi. Les sœurs Barbeau qui sont incroyables. C'est des réalisatrices incroyables. Et je me retrouve à être mais l'ombre de moi-même, quoi. Sur l'enregistrement du quatrième album Pink Lady, je suis souvent en lendemain de cuite, je suis souvent en nuit blanche, mais l'âge fait que je m'en sors. Je sais pas comment, c'est que je suis encore jeune, et toute mon énergie, je la déploie à faire comme si j'allais bien et comme si ça... Mais pour l'instant...
Comme si tu gérais, quoi.
Exactement. Et pour l'instant, il n'y a pas du tout de... À ce moment-là, on va dire que c'est un peu dur à gérer, mais je suis pas dépressive. J'ai eu un enfant aussi entre temps. Donc là, en 2015, il a 4 ans. Et jusqu'à ce qu'on se sépare avec son papa, disons que c'est quand même dur à gérer, comme les lendemains de cuite, mais en beaucoup plus sévère. Mais ça reste festif. Et puis les concerts sont toujours, on va dire, de qualité. Mais à partir du moment où je me sépare du père de mon fils,
c'est un rapport avec ton mode de vie et ton addiction, ta séparation. Pardon, alors rentre pas dans les détails intimes, mais oui ou non. Si c'est non, raconte pas le pourquoi, mais...
Cette personne-là, tu veux dire?
Ouais.
Non, alors lui, non, lui fait pas partie. Je pense que il boit normalement et la drogue, il a dû en prendre quelques fois, mais c'est même pas... C'est-à-dire que lui, il est aussi en tournée, il est éclairagiste, donc bon, il me laisse faire, mais il m'incite pas.
Pardon, parce que avant que tu nous racontes cette séquence-là de ta vie... tu as dit que tu avais un frère et une sœur, tu as des parents. Est-ce que quelqu'un, un jour, te prend entre quatre yeux en disant « tu déconnes complètement » ?
Pas du tout, parce que moi, j'ai personne à Paris. Donc, mes parents sont à Nice, mon frère est en Israël. Et puis, mes amis, elles me disent de temps en temps que je déconne, mais elles ne savent pas. Je mens beaucoup. Donc, elles savent que je suis rock'n'roll. Même, pour te dire la vérité, c'est que parfois, quand je prends de la cocaïne, je passe une soirée beaucoup plus cool. Et je suis pas, entre parenthèses, bourrée, parce que j'ai la cocaïne, quoi. Et elles le savent pas. Donc moi, je le prends en cachette dans les toilettes. Et elles me disent, bah, tu vois, ce soir, parce que je suis un scandale sur pattes, moi. Donc, les soirées, elles ont vécu des enfers sur Terre, mes meilleures amies. Et quand je peux gérer un petit peu de cocaïne le soir avec un peu d'alcool, franchement, personne voit. Le problème, c'est qu'à partir d'un moment, surtout, donc, quand je me sépare du père de mon fils, je rentre chez moi. Et il y a des semaines où il y a ni le mec, ni l'enfant. Et je rentre chez moi, j'ai toujours mon sachet de cocaïne et je continue. Et à partir de ce moment-là, je commence à inviter des gens, à faire la fête les semaines où j'ai pas mon fils. Et donc là, s'ensuit un va-et-vient infernal, une double, triple vie. Les moments où j'ai mon fils, les moments où j'ai pas mon fils, de me remettre de cette semaine-là avec mon fils, c'est l'enfer. Et comme je vais très mal, parce que j'arrive pas à gérer Solal, et ben j'ai besoin de consommer aussi à ce moment-là quand j'ai mon fils, alors qu'au début le but c'était de le faire que quand il était pas là. Je fais beaucoup de fêtes à la maison aussi, beaucoup de fêtes avec beaucoup de monde.
Tu te mets en danger ?
Je me mets en danger, je m'en rends pas compte du tout. Je pense que je mets plus en danger mon fils parce que quand tout le monde s'en va, si moi il m'arrive quelque chose. Il est petit, donc j'ai jamais réfléchi à ce truc-là de se dire que j'aurais pu mourir et qu'il se réveille et il y a que moi et je suis plus là. Donc ça, c'est bien après qu'on se rend compte de tout ça et je préfère pas penser à ce qui aurait pu arriver. Je remercie le ciel qu'il ait pas eu à vivre ça, bien sûr.
À quel moment tu te rends compte que ça va pas et que ce qui te faisait du bien ou tenir ou qui te plaisait va plus du tout.
Bah déjà, je me suis un peu éloignée de mes vrais amis parce que j'aime pas être jugée et puis je préfère ceux qui se droguent en fait. Et donc déjà, je m'isole. Je suis une maman assez pitoyable dans ma tête, même si je crois que je gère. Je sais que je gère. Mais moi, je sais que je m'en veux terriblement, je suis dans la culpabilité permanente et je me trouve vraiment exécrable. Donc, quand on a besoin de prendre un trait pour faire une sortie scolaire, je pense que c'est... voilà, ça parle de soi. Et puis, je me rends compte que je ne peux plus me lever des jours et des jours d'affilée. Je reste au lit, je peux plus. Et le lendemain de fête devient ma vie. Comme une gueule de bois, mais qui...
permanente.
Voilà. Et donc, je demande au père de mon fils de garder Solal un peu plus. Et puis, au début, c'est pour me mettre au vert. Donc, je consulte des addictologues. Et puis, finalement, j'y arrive pas. Donc là, tout ça, pour moi, c'est très flou. Ma mémoire, elle a un peu foutu le camp à ce moment-là. C'est très flou parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. J'essaye. Je sais que j'essaye, mais vraiment, c'est de pire en pire. C'est un peu comme les régimes. Plus on se met au régime, plus on grossit. On perd 2 kilos, on en prend 3. Et ben là, c'est pareil. Je sais que j'arrête. Et quand je reprends, c'est pire. Et à chaque fois, je fais que grimper jusqu'au jour où je me rends compte que j'ai pas dormi de la nuit, je dépose mon fils à l'école et je me rends à l'hôpital et je dis voilà, il faut que je reste. Voilà, je peux pas.
Ah, c'est toi qui y vas de toi-même.
Oui, oui. Je peux pas. Bah, de toute façon, je pouvais plus, mais je pense que c'est des nuits sans sommeil. C'est un état dépressif tellement grand que je sais que je pense à mourir tout le temps. Et j'ai pas la force et le courage de le faire, mais je prie le ciel. Je me rappelle que je suis pas croyante, mais j'essaie de croire en Dieu pour lui demander de pas me laisser me réveiller. Et après, quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, mais si Dieu m'écoute, mon fils se réveille et je suis morte. Donc, il y a un problème.
Ouais.
Et donc, le père de mon fils a été extraordinaire parce que, voilà, il a géré. Moi, j'ai été à l'hôpital. Mais à ce moment-là, on ne parle pas du tout d'addiction, de cocaïne, de drogue, d'alcool. On est sur la dépression. Voilà. Ma première hospitalisation, mais il y en a eu plusieurs. Bah, c'est la plus grosse hospitalisation. Pour moi, c'est le plus grand moment parce que c'est la prise de conscience et surtout, je m'en remets à une addictologue que je venais de rencontrer quelques mois avant, qui m'aidait qui essayait de m'aider en tout cas. Mais à partir de là, eh ben, je commence à y aller vraiment. Quand je sors de l'hôpital, je commence à y aller sérieusement toutes les semaines. Et on travaille doucement ensemble, même si la sobriété met du temps. Jusqu'à ce fameux 11 octobre 2017.
Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là?
Ce jour-là, entre-temps, je rencontre Romain, qui est pianiste. Je le rencontre à une fête. Et il se passe toujours tout de suite quelque chose entre nous. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je pense vraiment que notre histoire, elle est ancestrale et que on s'est reconnus.
C'était écrit.
Oui, mais qu'on s'est connus dans d'autres vies. Voilà. Pour moi, c'était genre comme si j'avais reconnu quelqu'un, alors que c'était pas une attirance physique ou esthétique. C'était pas ça du tout.
C'est une évidence.
C'était une évidence qu'en tout cas, il y avait eu quelque chose et il y allait y avoir quelque chose aussi. Et puis, on vit notre histoire d'amour au début pendant quelques mois. Et il voit que je suis incapable de boire sans chercher de la cocaïne. Enfin, il voit la galère dans laquelle je suis d'arrêter de reprendre. Je lui mens, je commence à mentir. Donc là, je repars encore alors que je venais de me faire soigner, entre guillemets, ouais, 2 semaines d'hôpital. Et là, quand je le rencontre, je sortais de ma première hospitalisation. Et puis, il me dit, non, mais là, hier soir, il me raconte la soirée, ouais, l'enfer qu'il a vécu, le fait qu'il ait dû avoir besoin de quelqu'un pour me remonter à la maison, parce que je cherchais de la cocaïne partout. Comme j'essayais d'arrêter la cocaïne, j'avais pas pensé qu'il fallait arrêter de boire. Et quand je buvais, j'en voulais, puisque je ne savais pas faire autrement.
C'était les deux ensemble.
C'est les deux ensemble ou rien. Et là, je dis, OK, j'ai compris. J'arrête de boire. Il me dit arrête. Je sais qu'à ce moment-là, personne ne peut imaginer que je vais moi ne plus boire, parce que honnêtement, j'ai 39 ans.
C'est ton image.
Non, mais je bois depuis 20 ans et vraiment beaucoup et tout le temps. Et jamais on m'a vu commander autre chose que de l'alcool. Jamais. Ou alors, fallait que je sois vraiment au lendemain de lendemain. Je ne savais pas. Dans ma tête, de me dire tu vas aller dans un bar ou dans un resto, ou je sais pas quoi, et dire je vais prendre un Perrier, c'était impossible.
C'est pas une option.
C'était pas une option. Et comme lui, il aimait bien aussi le bon vin et tout ça, il était là, il me dit, enfin, non, mais je te demande pas d'arrêter de boire. Forcément, je dis, non, mais t'as pas compris.
C'est ça. Obligée.
Ou alors, ça sera tout le temps la même. Et ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter le 11 octobre 2017. Je me suis fait tatouer la date. J'aurais pas dû parce qu'il y a eu quelques rechutes derrière, mais c'est ce que j'appelle pas des rechutes parce que j'ai appris plus tard que c'était une maladie. Mais à ce moment-là, je sais pas que c'est une maladie, je sais juste que il faut plus que je boive et j'arrête de boire et j'écris mon premier livre qui devient ma béquille et ma drogue. Et c'est la première fois que j'écris un roman, mais c'est un roman autobiographique, mais c'est quand même, c'est pas
c'est
des chansons, quoi.
C'est une création. Ouais.
Et surtout, tout de suite, je comprends qu'on va faire des chansons ensemble avec Romain, parce qu'il est pianiste, et que on commence à en écrire, et je dis, c'est fou, cette chanson, c'est le chapitre 2, cette chanson, c'est le chapitre 8. Et le puzzle se met en place, et je comprends qu'on va faire un album et un livre avec 7 chapitres, ouais, avec, pardon, 13 chapitres, donc 13 chansons, 13 chapitres, qui s'appelle Kérosène, Kérène, Rose.
Ouais, bien sûr.
Le kérosène, c'est la façon avec laquelle, c'est la matière, ouais, déjà tout s'enflamme, c'est le combustible et c'est surtout une matière, un matériau avec lequel est fabriquée la cocaïne. Donc tout était complètement fou, c'est avec le kérosène. Ça sent le kérosène d'ailleurs, la cocaïne.
D'accord.
Et ce qui est fou, c'est que je comprends aussi que la cocaïne, pour la fabriquer, on fait, c'est du raffinage,
ouais,
de kérosène. Et donc, on prend la matière brute, on raffine pour devenir cette matière. Et je comprends qu'en fait, kérène se raffiner pour faire exister rose et donc elle-même se consumer,
ouais,
tout simplement disparaissait pour faire exister rose. Parce que le raffinage, c'est faire exister quelque chose de plus brillant, de plus, ouais, grand, ouais, qui a plus
mais
de valeur.
Mais t'avais envie de revenir à Kérène, quoi.
Exactement. Et ce livre m'a sauvé, puisque en plus on a fait cet album, on a fait ce livre et on commençait à faire des dates et arrive le confinement, comme tout le monde. Disons que ça nous coupe un peu les jambes, comme plein de gens dans ce que ce soit ce métier ou un autre.
Et comment ça se passe pour toi, le confinement?
Très bien. Parce que je suis heureuse, parce que je vais bien, parce que je suis clean, on dit ça, et parce que je crois surtout que je suis guérie et loin de tout de cet enfer. Et je découvre que une goutte d'alcool peut en amener à deux, peut amener un verre, peut amener une bouteille et peut ramener à la cocaïne. Je découvre que ça peut revenir plus vite que ce que j'imaginais et que je ne suis pas guérie. Mais très vite, hein, heureusement, je me dis, il me faut une autre solution parce que retrouver l'envie et le déclic que j'avais eu 3 ans auparavant de dire j'arrête de boire, c'est pas facile et j'avais eu ce miracle-là. Et là, je l'avais plus. J'arrivais plus à retrouver l'envie de ne pas boire parce qu'on était en confinement, qu'on cuisinait et qu'on avait envie de se servir un bon verre de vin. Mon mec aussi avait envie qu'on boive. C'était chouette, quoi. Mais sauf que très vite, ces petits verres avec le petit repas se transformaient pour moi en une envie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin.
Oui, parce que tu ne sais pas faire autrement que consommer énormément. Et donc, comment tu fais à ce moment-là?
À ce moment-là, je me souviens qu'une amie à moi m'a transmis ce message, on appelle ça comme ça, c'est de me dire, moi, j'ai arrêté en allant dans des réunions d'alcooliques anonymes. Mais moi, j'y croyais pas à ce truc-là. Sauf que ce qui était drôle, c'est qu'elle, elle était anglophone et qu'elle avait été dans une réunion dans le Sud où elle avait été accueillie par Elton John.
Non.
Oui. Donc, elle, c'est son histoire, elle est glamour, tu vois. Ouais. Mais sinon, on imagine toujours un peu des salles, un peu de shoot dégueulasse, alors que c'est pas du tout ça. Ouais. Mais comme on est en plein confinement, je me dis, bah, je peux pas aller en réunion, il y a pas. Et donc, je vais sur le site et je vois qu'il y a des Zooms. Et je dis, mais c'est encore mieux. Je mets pas ma caméra, je vais voir ce que c'est.
Puis vraiment anonyme pour le coup.
Complètement anonyme. Et là, je me dis, waouh, ça, c'est chouette, tout le monde parle et tout, mais les gens qui sont en train de parler, c'est exactement moi. C'est mon histoire. Et puis, je comprends que c'est une maladie, que je ne suis pas coupable et que je suis juste responsable de mon rétablissement, mais pas coupable de cette maladie. Et je mets ma caméra. Petit à petit, j'ai un parrain, quelqu'un qui va devenir, ça, on appelle ça le sponsor aux États-Unis, mais donc un référent qui va t'aider quand t'as envie de boire, tu l'appelles. Enfin, il y a énormément de clés et d'outils, donc tu appelles les gens, tu vas en réunion, tu écris tes étapes, ça s'appelle. Donc ça, c'est tout un travail.
Il y a aussi c'est très séquencé.
Exactement, il y a de la méditation, il y a de la prière, donc c'est très spirituel. C'est très spirituel, et moi, je découvre ma spiritualité. Et ça, c'est fou, parce qu'il faut que j'aille au Narcotique Anonyme pour découvrir ma spiritualité que j'ai rejetée en bloc depuis toute jeune. Je ne comprenais pas mes parents, je ne comprenais pas ma famille, je ne comprenais pas cette religion juive, je ne comprenais pas qu'on ait peur d'un Dieu. Donc moi, je trichais, genre mes parents faisaient Shabbat et moi, je faisais pas Shabbat, je fumais Shabbat à 13 ans. Donc je suis une rebelle, moi, de la religion. Et là, d'un coup, j'ai envie de prier, je commence à croire à des choses, je vois des manifestations. Et je deviens un peu mystique, on va dire, mais ça m'aide énormément. À partir de là, le chemin, il devient sinueux, long, mais il est lumineux. Parce que le chemin, je comprends que c'est le but et que c'est pas une seconde l'arrivée.
Ouais.
Et je réalise que tout ce que je suis en train de faire là, c'est pas pour quelque chose. Ça se suffit.
Je t'ai entendu, parce que tu as un podcast qui est absolument génialissime.
Qui s'appelle Contradiction.
Je vous invite à l'écouter parce qu'elle a et des invités et des capsules où elle parle et c'est hypnotisant. J'adore. Donc, et dans une de ces capsules, tu dis, moi, je regarde, je sais pas comment tu le formules, mais je regarde pas long terme, je regarde au jour le jour.
Oui.
Chaque journée qui est gagnée, je suis hyper fière de moi.
Bah oui, parce que ça a été grâce justement à ces groupes. Le slogan, on va dire, le credo, c'est un jour à la fois, juste pour aujourd'hui. Et donc, juste pour aujourd'hui, j'aurai un programme. Donc, je fais tout au jour le jour. Là, tu vois, je déménageais. Moi, comme pour beaucoup d'addicts et beaucoup de gens qui ont des soucis d'attention, de cerveau en feu. Moi, j'appelle ça cerveau en feu. Je ne sais pas ce que c'est comme maladie, mais c'est que le moindre truc, la moindre charge mentale te fait surchauffer et tu as l'impression que tu n'arriveras jamais. Donc, moi, je me fais des montagnes de choses. C'était d'où le titre de mon deuxième opus qui s'appelait Les Montagnes Roses. C'est vraiment, pour moi, je me fais de souris des montagnes et de montagnes des souris. Mais vraiment.
Alors qu'une journée, c'est pas insurmontable quand tu y vois à l'échelle d'une journée.
Mais une chose à la fois même. Voilà. Et je me disais, j'ai pris le truc bien en avance. Aujourd'hui, je fais 5 cartons. Je trie ce tiroir. J'écris l'intro de ce podcast. Voilà. Je me fais un programme. Et ça, on te le dit dans ces groupes de parole. Il y a vraiment des choses très simples. Des slogans, des choses que tu incorpores à ta vie, que tu intègres et qui te changent ta vie. Par exemple, aujourd'hui, j'aurai un programme et j'essaierai de le suivre de mon mieux. Ok, aujourd'hui, je vais aller à cette réunion. Je regarde quelle réunion je vais aller, par exemple, si j'ai envie d'aller en réunion. Mais vraiment que au jour le jour. Et les problèmes de demain, je ne les regarde pas. Alors les gens vont te dire, ouais, tu te voiles la face. Pas du tout. Si c'est pas un problème aujourd'hui, c'est que c'est pas un problème. Voilà. Et en général, ça se règle.
En général, ça se règle. Mmh. Tu crois qu'un jour tu seras le parrain de quelqu'un?
Ah oui, je l'ai déjà été.
Ah oui.
Mais ça m'intéresse pas trop aujourd'hui. Je sais pas trop où j'en suis avec ces groupes. J'y vais. On appelle ça avoir du service. Donc il y a toujours une réunion dans laquelle on va et on va aider à installer la salle, à servir le café, comme on voit dans les films. Donc c'est important d'avoir du service parce que le but de ce programme, c'est des addicts qui aident d'autres addicts. Donc ça s'appelle c'est le service. Et c'est comme ça que nous on reste clean. Donc les gars qui ont créé ça, Bill et Bob, ils ont compris en 1950 qu'ils n'arrivaient pas à arrêter de boire en aidant un autre alcoolique. L'autre alcoolique n'a pas arrêté de boire, mais lui, oui. Donc ça a commencé comme ça. Il y a eu une réunion, puis deux. Aujourd'hui, il y en a des milliers dans le monde. Et il y en a pour tout. Il y en a pour la nourriture, donc ça s'appelle les OA, outre-mangeurs anonymes. Il y en a pour le jeu, il y en a pour l'alcool, pour la drogue, pour le sexe, pour la codépendance, pour tout.
Pour toutes les dépendances.
Et c'est le même programme. Le même. Et le podcast, pour moi, Contradiction, oui, fait partie du service. C'est-à-dire que non seulement j'ai l'impression de comment tu dis, divulguer, pas divulguer, de...
Partager, de ouais, diffuser.
Ouais, enfin, c'est pas le mot, mais de prodiguer des conseils et des clés et des outils pour les gens. Mais en plus, il y a un service après-vente qui est que je suis derrière mon écran pour répondre aux gens. J'ai pas les applis, donc moi je suis pas sur Instagram, Facebook, tout ça, je m'en fous. Mais sur mon ordinateur, le soir, je vais voir les messages que ma community manager me laisse ouvrir, et là je réponds à tout le monde. Et les gens qui ont besoin d'aide, je suis toujours là. Donc je tends la main, je motive, je réconforte, mais j'amène aussi des gens en réunion et je donne des pistes. Je dis pas que j'ai raison, mais je donne les pistes qui me semblent.
C'est important de dire aussi que même si on se sent pas concerné, le podcast, déjà, il est divertissant parce que t'invites des gens hyper intéressants, donc dans tous les cas, c'est sympa à écouter. Et puis on se rend compte que même à notre échelle, y a des choses, ou des conseils, ou des tips, ou des alertes qu'on se fait. Enfin, c'est quand même hyper intéressant, même au quotidien, quand on n'est pas soi-même dévoré par une addiction, ben on peut quand même entendre des trucs qui servent, quoi. Donc,
Moi, en tout cas, ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est que tous les êtres humains, puisque j'ai fait des épisodes scientifiques, on va dire neuroscientifiques, avec Sébastien Boller, qui a écrit un ouvrage génial qui s'appelle « Où est le sens ?». Et donc, il explique à quel point l'humain a besoin de faire du sens. Quand il n'y a pas du sens, il y a une partie de son cerveau, le striatum, qui va aller lui chercher quelque chose qui va la réconforter tout de suite. Donc il y a une partie du cerveau, la tour de contrôle qui elle va voir à long terme, mais il y a une autre partie du cerveau qui elle a besoin tout de suite d'avoir quelque chose qui va le satisfaire. Et donc ça c'est l'humain. Donc déjà c'est pas que les addicts, l'humain est un addict.
Ouais.
Et l'humain est accro, tous les humains, tous, y compris vous qui nous écoutez, êtes addicts à une chose,
mon podcast.
Déjà à la dopamine. Donc, on est tous addicts à la dopamine. Maintenant, il y a des cerveaux, justement, les malades dépendants qui en produisent moins et vont avoir besoin de la chercher ailleurs. D'autres qui ont suffisamment de dopamine, d'autres qui la trouvent dans le sport, l'affectif avec leurs amis, leurs amants, leurs enfants, d'autres qui la trouvent dans leur travail. Mais quand on est déficient en dopamine, on va la chercher là où on peut. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait au début? On va pas aller lire Spinoza qui va nous procurer un shoot de dopamine. Non, on va prendre un verre, on va prendre un cachet, on va prendre un Xanax, on va prendre du chocolat. C'est comme ça. Donc, le podcast, il y a ce livre-là qui est sorti, c'est le livre inspiré du podcast Contradiction, mais c'est surtout tout ce que j'ai appris en 10 ans de travail sur les addictions. Et avec mes invités, seul, à l'hôpital, avec tous mes addictologues, avec tout ce que je lis, moi j'ai découvert que la philosophie...
C'est un bouquin à offrir aux copains quand on a envie de leur dire, fais attention à quelque chose. Quoi.
Ah mais franchement, moi-même, je me souviens pas de tout ce que j'ai écrit, parce que je l'ai appris et des fois on oublie ce qu'on apprend, c'est normal. Je relis certains passages qui vraiment m'aident terriblement, notamment la philosophie qui peut nous aider vraiment, la philosophie de Spinoza et la philosophie des addicts. Comment retrouver en soi la joie, déjà, et donc quelque chose à l'intérieur tellement puissant qu'on n'ait plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur. C'est très philosophique et c'est ça l'addiction, hein, c'est d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui nous manque dedans.
Il a quel âge ton fils aujourd'hui?
Il va avoir 13 ans.
Il sait quoi de ce parcours, de ta trajectoire?
Il sait que j'ai été très mal. Il m'a vu pleurer beaucoup. Il sait que j'ai dû aller me reposer, entre guillemets, plusieurs fois. Que je ne bois pas, que je ne bois plus. Et que s'il me voit boire un verre, c'est que je déconne. Et qu'il faut pas. Tu vois, on disait tout à l'heure que dans ce podcast et dans ce programme des Alcooliques Anonymes ou dans le livre, ça parle à tout le monde, c'est que cette façon de vivre un jour à la fois m'a permis de grandir et d'évoluer dans tous les domaines de ma vie, que ce soit en couple avec mon fils déjà, mais aussi par exemple j'ai arrêté de fumer, j'ai trouvé une alimentation beaucoup plus saine, un rapport à la nourriture beaucoup plus sain. C'est-à-dire que cette vie à travailler sur mon addiction m'a permis de changer beaucoup de choses qui me faisaient du mal.
Tu t'es pardonnée ?
Oui, mais je m'en suis jamais voulu longtemps, moi. Alors, il y a des jours où quand t'as pas dormi et que t'amènes ton fils à l'école, tu as envie de te tuer. Mais je pardonne à moi et à tout le monde très vite. Je crois que c'est plus parce que je n'ai pas de mémoire. Mais vraiment, je ne garde pas en mémoire le mauvais. Je suis très optimiste pour quelqu'un d'aussi dépressif, très optimiste, parce que je visualise jamais le pire. Donc j'ai la chance, en fait, dans mon malheur, d'avoir quelques clés naturelles qui sont de ne jamais ruminer, jamais en vouloir aux gens, je n'ai aucune rancœur envers moi-même ou les autres, et surtout, j'envisage jamais le pire. Maintenant, m'apaiser est le travail de toute ma vie. Parce que je crois qu'on consomme beaucoup, que ce soit l'alcool, la drogue ou même les fringues ou quoi que ce soit.
Ou les écrans.
Hein. Voilà, la consommation, elle est partout. On consomme beaucoup pour mettre un filtre à la réalité et pour arrêter justement d'être en feu. Donc c'est une anesthésie. Et moi, comme j'ai enlevé la cigarette, j'essaye d'enlever le sucre beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du mal. Je l'enlève pas parce qu'il faut enlever le sucre. Hein. Je l'enlève parce que je me sens mieux sans. Et donc on enlève tous ces filtres. Et ben finalement on se retrouve à vif. Et ce que j'essaye d'expliquer dans ce podcast et ce livre, c'est que oui c'est dur au début d'enlever toutes ces béquilles là parce que c'est des béquilles donc on a l'impression qu'on marche plus droit. Mais à partir du moment où on les enlève, on va pouvoir commencer à voir la réalité, à travailler vraiment sur soi. Parce que ceux qui vont voir des psys, comme je l'ai fait pendant 15 ans, aller voir tous les psys de la Terre, mais en continuant à s'anesthésier, c'est impossible parce que on voit pas la réalité, on peut pas travailler sur soi quand on est sans cesse en train de mettre des filtres.
Donc on est d'accord que celle qui m'a parlé aujourd'hui, c'est Karen, c'est pas Rose.
Ouais, en ce moment, franchement, j'avoue que au grand désespoir de quelques fans, ils sont pas nombreux. Non, mais je les aime terriblement. Mais ceux qui attendent de moi de faire de la musique déjà, par exemple, cette Rose qui chante, en ce moment, elle est pas là. Voilà. Rose, c'est vrai qu'on a choisi le nom Rose pour les podcasts parce que c'était existant et qu'on connaissait Kérosène. Mais c'est vrai que c'est Karen qui fait les podcasts vraiment
et qui vit.
Ouais. Et qui vit aujourd'hui.